Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 112, Daf Kuf Yud Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans la Mishnah que si les inciteurs de la ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie étaient des femmes ou des mineurs, la condamnation correspondante ne sera pas appliquée. Par conséquent, ils seront traités comme des individuels qui ont commis l'idolâtrie et seront condamnés à l'exécution par lapidation et non pas par le glaive, et aussi leurs possessions ne seront pas détruites. La Gemara demande, Ibaya lehu, les Chachamim se sont posé la question, Hudru me'elehem mahu, quelle sera la loi dans le cas où ils se sont incités d'eux-mêmes? Est-ce que cette condamnation aura lieu ou non? Est-ce que nous disons, Baya dihu, amarachmana, puisque le pasuk dit, et des hommes ont incité les habitants de la ville à commettre l'idolâtrie, velo shehudru me'elehem, et non pas s'ils se sont incités d'eux-mêmes, puisque c'est ainsi, la condamnation n'aura pas lieu, odilma, ou bien, à filu hudru me'elehem, cette condamnation peut être appliquée, même s'ils se sont incités d'eux-mêmes. Alors, la Gemara dit, Tashma vient écouter une preuve de notre Mishnah. La Mishnah dit, hidichuha, nashim uktanim, si ce sont des femmes ou des mineurs qui ont incité les habitants de cette ville à commettre l'idolâtrie, la condamnation n'aura pas lieu. Alors la question se pose, Amai, pourquoi les havek et hudru me'elehem, puisque finalement, ils ont écouté ces femmes et ces mineurs, on devrait les considérer comme des habitants d'une ville qui se sont incités d'eux-mêmes, puisque c'est ainsi, s'il est vrai que dans le cas où ils s'incitent eux-mêmes, la condamnation pour la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie est appliquée, elle devrait l'être dans ce cas aussi. L'Agma répond, Hanach, dans ce cas où ils se sont incités eux-mêmes, Batar Nafshayu Gride, ils sont attirés par eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont attirés par leur propre pensée. Nous pouvons donc considérer que leur attachement à l'idolâtrie est fort et sérieux. C'est pourquoi il est possible que dans ce cas, la condamnation de la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie sera appliquée aussi. Hané, mais cela, qui se sont laissés entraîner par des femmes et des mineurs, Batar Nashim Vektanim Gride, ils sont attirés par des femmes et des enfants. Nous pouvons donc considérer que leur attachement à l'idolâtrie n'est pas sérieuse, ou en tout cas moins forte. Nous pouvons donc considérer en quelque sorte que leur péché est moins grave, et cette condamnation n'aura pas lieu. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Achi Udach Ruba, la condamnation correspondante n'est pas appliquée jusqu'à ce que la majorité des habitants de la ville se sont laissés entraîner. Alors la Gemara demande, Hechi Avdinan, comment applique-t-on cela, puisque nous voyons dans la suite de la Mishnah que pour chacun de ceux qui ont commis l'idolâtrie, il faut qu'ils aient été vus et avertis par des témoins, donc il faut juger chacun d'entre eux séparément. La Gemara répond, Amar Rabbi Huda, Danim Vechovshim, on juge celui qui est accusé d'avoir commis l'idolâtrie et on l'emprisonne, Danim Vechovshim, on juge d'autres personnes qui ont été soupçonnées d'avoir commis l'idolâtrie et on les emprisonne, et ce jusqu'à ce qu'on arrive à déterminer le nombre de ceux qui ont commis l'idolâtrie. S'il s'avère qu'il s'agit de la majorité des habitants de la ville, ils sont jugés, comme la ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie, ils seront donc condamnés à être exécutés par le glaive et leurs possessions seront détruites. Sinon, ils seront jugés comme des particuliers ayant commis l'idolâtrie, ils seront donc condamnés à être exécutés par lapidation et leurs possessions ne seront pas détruites. Amarle, Oula, lui a demandé, Nimtsa atame'ane et dinam shelelu. Il se trouve que tu fais souffrir les condamnés en laissant entraîner leur exécution, ce qui est interdit. En effet, une personne condamnée à mort est exécutée le jour même. Et là, plutôt Amaroula, Danin Vesoklim, on juge les personnes soupçonnées d'avoir commis l'idolâtrie et on les condamne à être exécutées par lapidation. Danin Vesoklim, on juge d'autres personnes soupçonnées d'avoir commis l'idolâtrie et s'il s'avère qu'ils sont coupables, ils sont condamnés à être exécutés par lapidation, et ce, à concurrence de la moitié des habitants de la ville. Une fois dépassé la moitié des habitants de la ville, il s'avère donc que la majorité des habitants de la ville se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, le jugement sera changé, et les coupables restants seront condamnés à être exécutés par le glaive, et toute la ville sera détruite. Itmar, il a été enseigné une discussion. Rabbi Yochanan Amar, Danin Vesoklim, on juge celui qui est coupable d'avoir commis l'idolâtrie et on le condamne à être exécuté par lapidation, Danin Vesoklin. On juge celui qui est coupable d'avoir commis l'idolâtrie et on le condamne à être exécuté par lapidation, et ce, jusqu'à concurrence de la moitié des habitants de la ville. Une fois dépassé ce nombre, il s'avère que la majorité des habitants de cette ville se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie. Ils seront donc jugés comme tels et ils seront donc condamnés à être exécutés par le glaive et la ville sera détruite. Beresh Lakish amar, Marbin Lahem Batedinim, on multiplie les tribunaux pour juger le plus de personnes possible dans la même journée. Ainsi, on arrivera à déterminer la même journée si la majorité des habitants de la ville ont commis l'idolâtrie ou non. Ainsi, on saura le jour même quel jugement doit être appliqué. Il semblerait donc que le même tribunal qui condamne ceux qui ont commis l'idolâtrie est celui qui choisit s'ils sont condamnés à être exécutés par lapidation ou par le glaive. La Gemara demande, « Eni, ce n'est pas vrai, veha amar rab chama bar yossi amar rabbi Oshaya. » Le pasuk dit dans Dvarim Zayin concernant le particulier qui commet l'idolâtrie, « Vehotseta et haishahu o et haishahai » etc. « Tu feras sortir cet homme ou cette femme vers ta porte, c'est-à-dire vers le tribunal de cette ville, et tu le condamneras à être exécuté par lapidation. » En de fait que le pasuk précise « cet homme-ci ou cette femme-ci », nous pouvons déduire « Ish ve isha atamotzi l'sha'arecha » un homme ou une femme tu peux faire sortir vers tes portes. Donc un homme ou une femme particulier qui ont commis l'idolâtrie, tu peux les amener à être jugés au tribunal d'une ville. « Ve iatamotzi kolayir kula l'sha'arecha » mais tu ne fais pas sortir toute la ville à ta porte. Autrement dit, tu ne peux pas juger toute une ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie dans le tribunal d'une ville constituée de 23 juges. De là, nous apprenons que cette ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie sont jugés au tribunal suprême composé de 71 juges dans la ville de Yerushalayim. La Gemara répond, et là plutôt, c'est ainsi qu'il faut dire, Marbin Lahem Batedinim, on multiplie les tribunaux pour juger le plus de personnes possible la même journée, ou Ainin Bedinehem, et ces juges approfondissent leur jugement, c'est-à-dire pour déterminer s'il s'agit de la majorité des habitants de la ville qui ont commis l'idolâtrie ou non. S'il s'avère que c'est la majorité des habitants de la ville qui ont commis l'idolâtrie, ou Maskinan Lehu le Bedin Agadol, on les fait monter au tribunal suprême, à la ville de Yerushalayim, Vegamre Lehu le Dinayhu, et là-bas, on termine leur jugement, Vekatle Lehu, et on les condamne à être exécutés par le glaive, et aussi à ce que leur ville soit détruite. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, le pasuk dit dans Dvarim Yud Gimel, Haketake Yoshbe Airaï, etc. Frappez, tu frapperas les habitants de cette ville. Alors, la Gemara dit là-dessus, Tanu Rabanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Hachameret Behagamelet Haoveret Mimakom Lemakom, une caravane d'âniers ou de chameliers qui voyage d'un endroit à l'autre, Lanu Betocha, s'ils ont passé la nuit dans cette ville, Vehudru Ima, et se sont laissés entraîner avec les autres habitants de la ville à commettre l'idolâtrie, Imishtahu Sham Shloshim Yom, s'ils ont résidé là-bas 30 jours, Hen Besayef, ils sont condamnés à être exécutés par le glaive, ou Mamonam Avad, et leur argent, donc leurs possessions, sont détruites. Pachot Mikan, mais s'ils ont résidé moins que cela, donc moins que 30 jours, Hen Beskila, ils sont condamnés comme des particuliers ayant commis l'idolâtrie, donc à être exécutés par lapidation, ou Mamonam Palet, et leur argent, donc leurs possessions, sont sauvés, ne seront pas détruites. D'ailleurs, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, ils s'associent avec les habitants de la ville du fait qu'ils ont résidé là-bas pendant 30 jours. Donc, s'ils complètent la majorité des habitants de la ville, et il s'avère donc que la majorité des habitants de la ville ont commis l'idolâtrie, ils seront jugés comme tels. Mais s'ils y ont habité moins que 30 jours, ils ne s'associent pas aux habitants de la ville. Par conséquent, il se trouve que seule la minorité des habitants de la ville ont commis l'idolâtrie. Ils seront tous jugés donc comme des particuliers ayant commis l'idolâtrie et ils seront condamnés à être exécutés par lapidation. Leurs possessions ne seront pas détruites. À la Gemara de Mandraminhi, on a opposé à cette braïta une Mishnah dans Masechet Baba Batra d'Af Zayin Amud Bet. Il s'agit là-bas des obligations qu'ont les citoyens de la ville à participer aux nécessités de la ville, comme construire une muraille, etc. En la Mishnah dit, Kama yihye ba'ir viyihye kanchayir, combien de temps une personne doit habiter dans une ville pour être considérée comme étant citoyen de cette ville? La Mishnah répond, Yud Bet Chodesh, 12 mois. Donc, la Mishnah nous enseigne qu'une personne ayant habité dans une ville moins de 12 mois n'est pas considérée citoyen de cette ville. puisque c'est ainsi, comment se fait-il que la Braïta nous enseigne que la caravane qui a résidé dans la ville pendant 30 jours est considérée comme les habitants de la ville? L'agma répond, Amar Rava, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction. Ici, dans la Mishnah de Bava Batra, il est question de considérer une personne comme étant citoyenne de la ville. Pour cela, il faut 12 mois. Mais ici, concernant la ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie, il s'agit de considérer la personne comme étant résidente de la ville. Pour cela, on se contente de 30 jours. Vehatania, effectivement, il est enseigné dans une braïta. Hamudar Hana'a Mibnaïr, celui qui a fait le vœu de s'interdire de profiter des citoyens de la ville. Imiesh Adam Shinishtahesham Yudbet Chodesh, s'il y a là-bas un homme qui a résidé dans cette ville pendant 12 mois, Asur Lehenot Mimenu, cette personne qui a fait le vœu n'aura pas le droit d'en tirer profit. Pachot Mikan, mais si la personne en question a résidé moins que cela, donc moins que 12 mois dans cette ville, Mutar Lehenot Mimenu, cette personne qui a fait le vœu aura le droit d'en tirer profit. Beyoshve Ahir, par contre, si cet homme en question a fait le vœu de s'interdire de profiter des habitants de la ville, Im Nishtahe Shloshim Yom, s'il y a là-bas une personne qui a résidé dans cette ville pendant 30 jours, Asur Lehenot Mimenu, cette personne qui a fait le vœu n'aura pas le droit d'en tirer profit, Pachot Mikan, mais si la personne en question a résidé moins que cela, donc moins que 30 jours, Mutar Lehenot Mimenu, cette personne qui a fait le vœu aura le droit d'en tirer profit. Nous voyons donc bien dans cette braïta qu'il y a une différence entre les citoyens de la ville. Pour être considéré comme tel, il faut avoir résidé dans la ville pendant 12 mois, mais pour être considéré habitant de la ville, il suffit d'y avoir résidé pendant 30 jours. En du fait que le pasouk précise en disant « frapper, tu frapperas les habitants de la ville », nous voyons qu'il est question ici d'habitants de la ville. Pour être considéré comme tel, il faut y avoir résidé pendant 30 jours, comme nous l'avons vu précédemment. C'est pourquoi, lorsqu'une caravane d'agneaux ou de chameliers a résidé dans la ville pendant une période de 30 jours, ils seront considérés comme étant habitants de la ville pour s'associer à eux. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, elle rapporte le pasouk dans Dvarim Yud Gimel qui dit, « Hacharem otah ved kol asherba » tu l'extermineras et tout ce qui s'y trouve. Alors, l'Agmara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Nous lisons, selon les annotations du Gaon Mivilna et selon Rashi, Hacharemota, lorsque le pasouk dit, tu l'extermineras, Prat les Nirse Tzadikim Shebechutzala, cela vient exclure les possessions appartenant aux justes qui n'ont pas commis l'idolâtrie et qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Ceux-ci ne seront pas détruits avec les biens de la ville. Lorsque le pasouk dit Ve'et kol asherba et tout ce qui s'y trouve, les rabot nirse tzadikim shebetocha, ce passage vient inclure les possessions appartenant aux justes qui n'ont pas commis l'idolâtrie et qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Ceux-ci seront détruits avec les biens de la ville. Lorsque le pasouk dit shlala, son butin, velo shlal shamaim et non pas le butin appartenant au ciel, donc les objets sacrés ne seront pas brûlés avec les biens de la ville. Lorsque le pasouk dit Ve'et kol shelala et tout son butin, cette précision supplémentaire, les rabot nirse reshaim shechutzala vient inclure les possessions des mécréants qui ont commis l'idolâtrie, même s'ils se trouvent à l'extérieur de la ville. Ceux-ci donc seront brûlés avec les biens de la ville. Amar Rabbi Shimon mipnema amra Torah. Pourquoi est-ce que la Torah a dit nirse tzadikim shebetocha yovedu que les biens appartenant aux justes qui n'ont pas commis l'idolâtrie, mais qui se trouvent à l'intérieur de la ville seront perdus, donc seront brûlés avec les biens de la ville? C'est parce que Migaram Lahem Shiaduru Betocha, qui leur a causé de vivre dans cette ville avec ces mécréants qui ont commis l'idolâtrie, Mamonam, c'est leur argent, leur possession. L'efficar, c'est pourquoi Mamonam Avad, leur argent, donc leur possession, seront détruites avec le reste de la ville. Et cela, bien qu'eux-mêmes ne sont pas punis parce qu'ils n'ont pas fauté. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit que lorsque le pasouk dit dans Dvarim Yudgimel, Ved kol shelalah tikbots, et tu rassembleras tout son butin, les rabot nirse reshaim shebechutzalah, cela vient inclure les biens des mécréants qui ont commis l'idolâtrie, qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Amar Rav Chisda ou benik batsim le tocha, mais ce à condition qu'ils sont rassemblés à l'intérieur. Cette précision nous enseigne deux choses. Premièrement, il faut que ces biens appartenant aux mécréants puissent être rassemblés le même jour dans cette ville, mais s'ils se trouvent trop éloignés de la ville, il est impossible de les amener pendant cette journée où ils sont condamnés. ces biens seront permis, ne devront pas être détruits avec les biens de la ville. Deuxième enseignement, il faut que ces biens aient été au moins une fois dans cette ville. Mais s'ils n'ont jamais été dans cette ville, par exemple s'ils sont tombés en héritage à un des mécréants à l'extérieur de la ville, ces biens ne devront pas être détruits avec les biens de la ville. Amar Rav Chisda, Pikdonot Shelanche Iranidachat, les dépôts des habitants de la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, Moutarine, sont permis. La Gemara demande, Hechidami, comment se présente ce cas? Que veut nous enseigner Rav Chisda? Il est mad iracheret vitneu begava. S'il parle de dépôts provenant d'habitants d'autres villes et qui se trouvent dans cette ville, donc des objets que des habitants d'autres villes ont déposés chez des habitants de cette ville, pshita de Moutarim, il est évident qu'ils sont permis. Lav shelalahu, ce n'est pas son butin. Puisque ces biens n'appartiennent pas aux habitants de cette ville, il est évident qu'ils ne doivent pas être détruits avec les biens des habitants de cette ville. Ve'ela plutôt didhu, ve'itnehu be'iracheret, il s'agit d'objets leur appartenant et qui se trouvent dans une autre ville. Alors, idenikbatzim le Torah, s'il s'agit d'objets qui peuvent être rassemblés dans cette ville, c'est-à-dire ils sont déposés chez les habitants d'une ville proche, à Maïmoutarim, pourquoi sont-ils permis? Puisque finalement, nous avons vu que les biens appartenant aux mécréants qui ont commis l'idolâtrie, même s'ils se trouvent à l'extérieur de la ville, ils doivent être détruits avec les biens de cette ville, à la condition qu'ils peuvent être ramenés le même jour. Ve'i ennikbatzim le Torah, et si ces objets ne peuvent pas être ramenés le même jour dans cette ville, car ils ont été déposés chez des habitants d'une ville éloignée, et c'est pour cela qu'ils sont permis, Ha'amra Hadazimna. Pourtant, il l'a déjà dit une fois, pourquoi a-t-il eu besoin de le répéter? Agma répond, Lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre l'enseignement de Rav Chisda, mais plutôt de la manière suivante. Le Olam de Iracheret de Mifkede Betocha, toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'objets appartenant à des habitants d'une autre ville et qui ont été déposés dans cette ville, donc chez un des habitants de cette ville. Les Hachab et Maeskinaim, et ici, de quoi s'agit-il? Que Gon de Kabila Leh Achrayut. Il s'agit d'un cas où ce dépositaire a accepté de garantir cet objet, donc de le rembourser dans le cas où il serait perdu ou volé. Maou de Tema, on aurait pu penser dire qu'Ivan de Kabila Leh Achrayut, puisqu'il a accepté de garantir ce dépôt, Kedideh Dami, on le considérait comme lui appartenant. Et c'est pour cela donc qu'il devrait être détruit avec les biens de la ville. Kamash Malan, c'est pour cela que Rav Chisda a eu besoin de nous enseigner qu'étant donné que cet objet appartient réellement à un habitant d'une autre ville, il ne s'agit pas de butin de cette ville et ce dépôt ne devra pas être brûlé avec les objets ou les biens de cette ville. Amar Rav Chisda Behema Chetzia Shelir Anidachat VeChetzia Shelir Acheret, un animal dont la moitié appartient à un habitant de cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie et l'autre moitié appartient à un habitant d'une autre ville, Asura, elle est interdite à la consommation. Issa, Chetia, Shel Ir Anidachat, Vechetia, Shel Ir Acheret, une pâte dont la moitié appartient à un habitant de cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie et l'autre moitié appartient à un habitant d'une autre ville, Mouteret, elle est permise à la consommation. La Gemara demande Maïtama pourquoi. Elle répond Behema keman de l'opliga d'Amia. Un animal ne peut pas être considéré comme étant partagé. C'est-à-dire, puisque pour permettre l'animal à la consommation, il faut impérativement l'égorger, donc l'abattre rituellement, puisque la moitié de ses organes vitaux sont de toute façon interdits, il est interdit d'en tirer profit, car la moitié appartient à un habitant de cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie. Il est impossible que l'abattement rituel de cet animal la permette entièrement à la consommation. Par conséquent, même la moitié appartenant à l'habitant de l'autre ville est interdite à la consommation. Cependant, il sera permis de tirer profit de la moitié appartenant à l'habitant de l'autre ville. En effet, puisque cet animal est destiné à être tué par le glaive, même si cet animal a été égorgé, donc a été abattu rituellement, nous considérons, en ce qui concerne la partie appartenant à l'habitant de cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, que l'animal a été simplement tué et non pas abattu rituellement, il sera donc interdit d'en consommer. Issa keman de pliga d'amia, par contre, la pâte peut être considérée comme étant partagée. Par conséquent, la partie appartenant à l'habitant de cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie est interdite, il est même interdit d'en profiter. Mais la moitié appartenant à l'habitant de l'autre ville est permise, et il sera même permis d'en profiter. Nous considérons, après le partage, que que chacun des propriétaires a reçu la part qui lui revenait. Ba'er Rav Chisda, Behemat Ir Hanidachat, un animal appartenant à un habitant de la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, et qui donc doit être tué par le glaive. Mahu de Titane Ba Shrita le Tahara Mide Nevela. Est-ce que le fait de l'abattre rituellement va permettre de la purifier, donc d'empêcher que prenne effet l'impureté du cadavre animal? C'est-à-dire, est-ce que nous considérons que cet animal a été abattu rituellement, au moins en ce qui concerne l'impureté, et cet animal n'aura donc pas l'impureté du cadavre animal, ou bien nous ne considérons pas que cet animal a été abattu rituellement? Est-ce que nous disons le ficharev amar rachamana, puisque le pasouk dit, toujours dans Dvarim Yud Gimel, que les animaux doivent être tués par le glaive? Loshana shachta mishrat, loshana katla miktal. Il n'y a pas de différence si cet animal a été abattu rituellement ou bien si simplement il a été tué par le glaive. Dans tous les cas, nous disons que la prescription du pasouk a été appliquée. Par conséquent, nous considérons simplement que l'animal a été tué et il aura donc l'impureté du cadavre animal, odilma, ou bien nous dirons kivan de shachta, puisqu'il l'a abattu rituellement, mehanyala shrita, l'abattage rituel lui a servi à la purifier de l'impureté du cadavre animal. C'est-à-dire que nous dirons, comme le dit le Rachash, de même que l'animal condamné à être lapidé pour avoir tué une personne, s'il a été abattu rituellement, bien que la viande ne soit pas permise à la consommation, cependant cet animal n'aura pas l'impureté du cadavre animal. Ainsi, dans l'autre cas, cet animal qui a été condamné à être tué par le glaive, s'il a été abattu rituellement, il n'aura pas l'impureté du cadavre animal, bien qu'il soit interdit à la consommation. Ou bien, nous ferons la différence entre les deux cas, car l'animal condamné à être lapidé, s'il a été abattu rituellement, la prescription de la Torah n'a pas été accomplie. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'un cadavre animal, puisque finalement, il n'a pas été lapidé. Mais dans ce cas de l'animal qui doit être tué par le glaive, même s'il a été abattu rituellement, finalement, il a été abattu de la même manière avec un couteau ou une épée. Alors, l'Agmara demande Maï, qu'en est-il? L'Agmara répond Tekou, c'est une question qui reste sans réponse. Eliyahu HaNavi répondra. Voir les Tshuvot de Oneg Yom Tov, Siman Samechet, qui explique longuement ce passage. Ba'er Rav Yosef, Se'ar Nashim Tzidkaniot Mahu. En ce qui concerne les cheveux des femmes justes qui n'ont pas commis l'idolâtrie, qu'en est-il? Est-ce qu'il est permis d'en tirer profit ou non? Est-ce que ces cheveux doivent être brûlés avec les biens de la ville ou non? Nous pouvons donc déduire de cette question de Rabbi Yosef qu'il a compris que les cheveux des femmes mécréantes, donc qui ont commis l'idolâtrie, sont interdits. Il est donc interdit d'en tirer profit et il faut les brûler. Pourtant, le pasouk dit clairement dans Dvarim Yud Gimel Tikbots Vesaraf Taktiv, il est écrit donc, tu rassembleras et tu brûleras les biens de la ville. Nous pouvons déduire que sont concernés par cette obligation Mish Enom Chusar Elakvitsa Usrefa, que les biens auxquels il ne manque que le fait de les rassembler et de les brûler. Yatsaze, nous exclurons celui-ci, donc les cheveux attachés à la personne, Shem Chusar Klisha Ukvitsa Vesrefa, auxquels il manque le fait de les détacher, c'est-à-dire de les couper, de les rassembler et de les brûler. Finalement, même les cheveux des femmes mécréantes qui ont commis l'idolâtrie ne sont pas interdits, il n'est pas interdit d'en tirer profit. Et là, Rabba dit, Bepea Nochit, la question de Rav Yosef se pose concernant une perruque appartenant à une femme juste qui n'a pas commis l'idolâtrie. Alors la Gemara demande, Heridami, comment se présente cette question de Rav Yosef? Id Mechubar Begufa, s'il s'agit d'une perruque attachée à son corps, donc qu'elle porte cette perruque, que Gufa Damia, cette perruque ressemble à son corps, c'est-à-dire de même qu'elle sortira de la ville portant ses habits, elle pourra le faire en portant sa perruque. Donc pourquoi se pose-t-il cette question? L'Agma répond, l'Otzricha, la question ne se pose que dans le cas des Talé Besivta, où cette perruque est attachée à un crochet, c'est-à-dire elle n'est pas portée par cette femme. Alors la question se pose, Kenirset Sadikim Shebetocha Dami, est-ce que cette perruque ressemble au bien des justes qui n'ont pas commis l'idolâtrie qui se trouve à l'intérieur de la ville, Ve'avad, il faut donc la détruire et la brûler au Dilma, ou bien Kivan de Aila Venafka, puisqu'elle va sortir en portant cette perruque, qu'elle bouchard Damia, celle-ci ressemble à son habit, même s'il ne la porte pas à ce moment, et par conséquent, elle ne sera pas interdite, il ne sera pas nécessaire de la brûler avec les biens de la ville. L'Agmara conclut, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu HaNavi répondra. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui ramène le pasouk dans Dvarim Yud Gimel qui dit « Ved kol shelalah tikbots el toch rechova » et tout son butin, tu le rassembleras dans sa rue. La Gemara dit là-dessus « Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta « En la rechov » si dans cette ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, il n'y a pas de grande rue « En anasit iranidachat » la loi concernant la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie ne s'applique pas. Du vrai Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, en la rechov, si cette ville n'a pas de rue, aussi en la rechov, on lui fait une grande rue. La Gemara demande de Maïka Miflegué, en quoi discutent Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? La Gemara répond, Mar Savar, un des deux pense, Rabbi Ishmael pense, Rechova Meikara Mashma, lorsque le pasouk parle de sa rue, il s'agit de la rue qu'elle avait à l'origine. Mais si, lorsqu'elle a été jugée comme ville ayant commis l'idolâtrie et n'avait pas de rue, ce jugement ne s'applique pas. Omar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi Akiva pense, Rechova Hashtalami Meshma, lorsque le pasouk dit sa rue, il peut même s'agir de la rue qui a été créée nouvellement. Donc, si elle n'a pas de rue, on peut lui faire une rue et ce jugement pourra s'appliquer.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kuf Yud Bet Amud Bet. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Vahek Deshot Sheba Yipadu, et les objets sacrés, donc les objets qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple et qui se trouvent dans cette ville, seront rachetés, c'est-à-dire il sera possible de les racheter et de les utiliser par la suite. Et cela, car il ne s'agit pas d'objets appartenant aux habitants de la ville, mais plutôt à Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Hayuba Kodashim Kodshem Isbeach, si dans cette ville il y avait des animaux sacrés qui ont été désignés pour être offerts comme sacrifice, Yamutu, il faudra les faire mourir, c'est-à-dire les enfermer dans une pièce étroite et les nourrir d'orge jusqu'à ce que leurs intestins éclatent. Kodshem Edekabait, s'il y avait des objets sacrés donc qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple, Yipadou, ils pourront être rachetés, leur argent sera donc donné pour la réfection du temple, et ces objets pourront être utilisés. Ou Troumot, s'il y avait dans cette ville des aliments, des produits qui ont été désignés comme prélèvement pour le Kohen, Irakvou, il faudra les laisser pourrir, c'est-à-dire il sera interdit de les consommer, cependant ils ne devront pas être brûlés avec les biens de la ville. Ou Maaser Sheni Vekitve Akodesh, s'il y avait des produits qui ont été désignés comme second dîme, destinés à être consommés dans la ville d'Yerushalayim, ou des écrits sacrés, il est interdit d'en profiter, cependant, on ne les brûlera pas, plutôt on les enfouira, on les enterrera dans la terre. Rabbi Shimon Omer, Behemta Velo Behemat Bechor ou Maaser, lorsque le pasouk dit, et les animaux de cette ville, il faudra donc les exterminer, nous apprenons de là, et non pas le premier-né animal est l'animal qui a été désigné comme dîme des animaux. Ceux-là, donc, ne seront pas exterminés avec les animaux de la ville. La Gemara expliquera. Lorsque le pasouk dit « Shlala », son butin, « Prat le kesef ekdesh ve kesef maaser », ce terme vient exclure l'argent qui a été sanctifié pour la réfection du temple et l'argent qui provient du rachat de la seconde dîme lorsque son propriétaire désire utiliser ses produits dans la ville là où il habite, et l'argent de son rachat sera employé pour l'achat d'aliments pour se nourrir dans la ville de Yerushalayim. Ces deux types d'argent ne font pas partie des biens de la ville, mais plutôt appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Ils seront donc utilisés comme tels. L'argent qui a été sanctifié sera utilisé pour la réfection du temple, et l'argent de la seconde dîme sera employé dans la ville de Yerushalayim pour de la nourriture. À Marmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit Hayuba Kodashim Kodshem Isbeach Yamutu. S'il y avait dans cette ville des animaux sacrés, donc qui ont été désignés pour être offerts comme sacrifice sur l'autel, il faudra les faire mourir. Alors la question se pose, Vahama Yamutu, pourquoi faut-il les faire mourir? Yiru Achista Avu, on n'a qu'à les laisser paître jusqu'à ce qu'ils soient atteints d'une infirmité qui les rend impropres à être offerts comme sacrifice, Vehimachu, et qu'on les vende à ce moment, Vipludme Mindava, et que la contre-valeur de leur vente tombe dans la caisse destinée à l'offrande de sacrifice lorsqu'il n'y a aucun sacrifice à offrir sur l'autel. C'est-à-dire, il est vrai que nous comprenons que le sacrifice provenant des habitants de cette ville ne peut pas être offert, pour les raisons que nous verrons plus loin. Cependant, puisqu'il s'agit d'un animal n'appartenant pas aux habitants de la ville, puisque c'est un sacrifice, on devrait le vendre lorsqu'il sera atteint d'une infirmité et utiliser la contre-valeur de la vente pour l'offrande d'un sacrifice. Agma répond, Rabbi Yochanan Amar, le pasouk dit dans Mishle Kafalef, Zevach Rechaim Toeva, le sacrifice d'un mécréant est une abomination. Selon lui, non seulement l'animal qui a été désigné pour être offert comme sacrifice par le mécréant ne peut pas être offert comme sacrifice, et c'est pour cela donc que les sacrifices eux-mêmes ne peuvent pas être offerts sur l'autel, mais même la contre-valeur de ce sacrifice ne peut pas non plus être offerte sur l'autel. Il n'y aura donc rien d'autre à faire que de les faire mourir. Resh Lakish Amar, Mamon Baalim Hu, ce sacrifice est considéré comme étant l'argent de son propriétaire. Behacha Bekodashim Shechayav Bachariutam, ici il s'agit de sacrifices dont le propriétaire a pris sur lui un engagement de les remplacer s'ils sont perdus ou volés. Rabbi Shimon Hi, et la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon d'Amar Mamon Baalim Hu, qui dit que dans ce cas où le propriétaire a pris sur lui un engagement de remplacer le sacrifice s'il disparaît, ce sacrifice est considéré comme étant l'argent, donc la possession de son propriétaire. Et c'est pour cela qu'il dit dans Masechet Bavam Tzia Daf Nunvavamubet que lorsqu'un tel sacrifice est atteint d'une infirmité et il est donc racheté ou vendu pour acheter un autre sacrifice pour le remplacer, nous considérons qu'il est vendu en tant que propriété du propriétaire. Par conséquent, les lois de la fraude s'appliquent sur cette vente, alors que s'il s'agit d'un objet sacré qui n'est pas considéré comme possession de son propriétaire, les lois de la fraude ne s'appliquent pas. Donc, selon Resh Lakish, notre braïta a été dictée par Rabbi Shimon, et il s'agit d'un sacrifice, comme nous l'avons expliqué, dont le propriétaire s'est engagé à le remplacer s'il disparaît. Celui-ci, comme nous l'avons dit selon Rabbi Shimon, est considéré comme étant la possession de son propriétaire et doit disparaître au même titre que les biens de cette ville. Cependant, par respect pour le sacrifice et pour HaKadosh Baruch Hu, l'auteur de la Mishnah s'est exprimé différemment en disant que ces sacrifices doivent mourir et n'a pas dit qu'ils doivent disparaître avec les biens de la ville. La Gemara demande, Hamidesefa Rabbi Shimon Hi, puisque la fin de la Braïta a été dictée par Rabbi Shimon, Recha Lav Rabbi Shimon, le début de la Mishnah ne peut pas avoir été dicté par Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon est en désaccord avec le premier auteur de la Braïta. C'est pour cela que Resh Lakish dit, Bekodashim Kalim Valibad Rabbi Yossi Aglili, dans notre Braïta, il s'agit de sacrifices d'une sainteté légère comme le Korban Shlamim, et ce, selon l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, D'Amar, qui dit Kodashim Kalim Mamon Baalim, que les sacrifices d'une sainteté légère comme le Korban Shlamim sont considérés comme étant l'argent, donc la possession de leur propriétaire. Et c'est pour cela qu'il dit dans Masechet Baba Kama Daf Yudbet Amudbet que si quelqu'un vole ce sacrifice et a nié ce vol par un faux serment, lorsqu'il avoue son faux serment, il devra non seulement rembourser le vol, mais en plus payer une amende d'un cinquième de la valeur de son vol au propriétaire et offrir un korban hacham, et ce comme s'il s'agissait d'un vol ordinaire. Mais si le sacrifice n'est pas considéré comme étant en possession de son propriétaire, cette loi ne s'applique pas. Donc, notre braïta suit l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui dit qu'un sacrifice d'une sainteté légère comme le korban shlamim est considéré comme étant en possession de son propriétaire. Par conséquent, cet animal doit disparaître avec les biens de la ville. Cependant, par respect pour le sacrifice et pour HaKadosh Baruch Hu, l'auteur de la Braïta s'est exprimé différemment en disant que ces sacrifices doivent mourir et non pas disparaître avec les biens de la ville. La Gemara demande « Aval Kodeshe Kodashim » mais s'il s'agit de sacrifices d'une sainteté grave comme le Korban Ola ou le Korban Hacham, « Mai, quand sera-t-il ?»« Yipadou, on pourra les racheter. » C'est-à-dire que, selon l'interprétation de Resh Lakish, il devrait sortir que d'autres types de sacrifices, comme le Korban Ola ou le Korban Hacham, qui se trouvaient dans cette ville, même s'il est interdit de les offrir eux-mêmes comme sacrifices, car comme nous l'avons dit précédemment, le sacrifice du mécréant est une abomination, mais il devrait être possible d'attendre qu'ils soient atteints d'une infirmité pour les vendre et utiliser le produit de la vente pour offrir un sacrifice sur l'autel lorsqu'il n'y a pas d'autres sacrifices à offrir. Si c'est ainsi, au lieu d'enseigner dans la suite de la Braïta que des objets qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple, ils pourront être rachetés, l'iflog velitne bedida. La braïta aurait dû faire la différence dans le cas où elle parlait précédemment. C'est-à-dire, elle aurait dû dire, bam edvarim amurim, quand ces choses sont dites, que les sacrifices doivent mourir, be kodashim kalim, lorsqu'il s'agit de sacrifices d'une sainteté légère, comme le korban shlamim, aval kodshe kodashim, mais s'il s'agit de sacrifices d'une sainteté grave, comme le korban ola ou le korban hacham, ipadou, ils pourront être rachetés, c'est-à-dire lorsqu'ils seront atteints d'une infirmité, ils pourront être vendus, et le produit de leur vente sera utilisé pour offrir des sacrifices, lorsqu'il n'y en a pas d'autres à offrir. Ragma répond, kivandi ka chata chemetu balea, puisque parmi les sacrifices d'une sainteté grave, il existe aussi le korban chatat, et la loi est que le korban chatat dont le propriétaire est décédé de la mita azla est destiné à laisser mourir. L'opsikale, ce cas n'a pas pu être généralisé. C'est-à-dire, l'auteur de la breita n'aurait pas pu dire que s'il s'agit de sacrifices d'une sainteté grave, on pourra les racheter, comme nous l'avons expliqué, car étant donné que parmi les sacrifices d'une sainteté grave, il existe aussi le korban chatat, et si son propriétaire a été mis à mort en tant qu'habitant de cette ville dont les habitants ont été entraînés à commettre l'idolâtrie, finalement, ce sacrifice ne pourra pas être offert, mais plutôt, il faudra le faire mourir. C'est pour cela que l'auteur de la Braïta a préféré citer le cas général d'objets qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple, qui, dans tous les cas, pourront être rachetés, comme nous l'avons expliqué. Mais en fait, s'il y avait des sacrifices comme un korban ola et un korban hacham dans cette ville, ils pourront être rachetés par la suite lorsqu'ils seront atteints d'une infirmité, comme nous l'avons expliqué. La Gemara demande, Bishlama Rabbi Yochanan lo amar ke Resh Lakish. On comprend bien que Rabbi Yochanan n'est pas interprété la Braïta comme Resh Lakish. Dirtiv, c'est parce qu'il est écrit dans Mishle Kaf Alef, Zevach Reshaim Toeva, le sacrifice du mécréant est une abomination. Selon lui, ce principe s'applique même pour le produit de la vente du sacrifice, comme nous l'avons expliqué. Et là, Resh Lakish maitama lo amar ke Rabbi Yochanan. Mais en ce qui concerne Resh Lakish, pourquoi n'a-t-il pas interprété la Braïta comme Rabbi Yochanan? La Gemara répond, Amar Lecha, Resh Lakish, te répondrai, Ki Amrinan Zevach Reshaim Toeva, quand est-ce que nous appliquons le principe donc du Pasuk dans Mishle Kaf Alef qui dit le sacrifice du mécréant est une abomination? Hanemile Hecha de Itnehu Benayu, c'est uniquement lorsque le sacrifice lui-même existe, donc le sacrifice qui a été désigné par le mécréant, Avalacha, mais ici, dans notre cas, qui va de Ishtane, puisque ce sacrifice a changé, car on ne parle pas d'offrir l'animal qui a été désigné par le mécréant, mais plutôt le produit de la vente de cet animal. Donc, il a été transformé, ishtané. Cet animal a été transformé, ou ce sacrifice a été transformé, et il sera possible de l'offrir. C'est pour cela que Resh Lakish a dû interpréter la Braïta en disant que celle-ci a été dictée par Rabbi Yossi Aglili, et qu'il s'agit de sacrifices d'une sainteté légère comme un korban shlamim. La Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit, nous lisons selon la note marginale, Rabbi Shimon Omer, Behemta, Velo Behemat, Mechor, Umaaser. Lorsque le pasouk dit son animal, donc les animaux de la ville, et non pas le premier-né animal, et ni l'animal qui a été désigné pour la dîme des animaux. Ceux-ci ne seront pas exterminés avec les animaux de la ville. Alors la Gemara demande, Bema Eskinan, de quoi s'agit-il? Ilema Bitmimim. S'il s'agit d'animaux parfaits, donc qui peuvent être offerts comme sacrifice, alors pourquoi est-ce que Rabbi Shimon l'apprend du terme Behemta, les animaux de la ville, Shlal Shamaim Hu? Ces animaux font partie du butin du ciel, autrement dit, ces animaux ne peuvent pas être considérés comme appartenant aux habitants de la ville. Il n'y a donc aucune raison de les exterminer. On n'a pas besoin d'un autre pasouk pour le déduire. Et là, plutôt, Bebal et Mumim, il s'agit d'animaux atteints d'une infirmité. Si c'est ainsi, Shlalahninu, il s'agit du butin des habitants de la ville. En effet, le premier-né animal atteint d'une infirmité est consommé par le Kohen qui l'a reçu, et l'animal désigné comme digne des animaux qui est atteint d'une infirmité est consommé par son propriétaire. Finalement, ces animaux devraient être considérés comme la possession de leur propriétaire, et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas exterminés avec les animaux de la ville. La Gemara répond à Maravina, Leolam, Bebal et Mumim. Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'animaux atteints d'une infirmité. Cependant, Rabbi Shimon exclut leur extermination, justement, de ce passou qui dit Behemta, les animaux de cette ville. En effet, il dit, Umi Shenechal Betorat Behemta, les animaux qui peuvent être consommés en tant qu'animaux des habitants de la ville doivent être exterminés. Yatsu Elou, on exclura cela. Donc le premier animal ou l'animal désigné comme digne des animaux qui ont été atteints d'une infirmité, She'en nechalim betorat be'emta, qui ne sont pas consommés en tant qu'animaux appartenant aux habitants de la ville, et là betorat bechor ou maaser, mais plutôt ils sont consommés en tant que premier-né animal ou des animaux. Des shlal shamaim ninu, qui à l'origine étaient considérés comme étant butin du ciel, donc appartenant à Kodesh Baruch Hu et non pas aux habitants de la ville. C'est-à-dire que même si en fait ils appartiennent à leur propriétaire, mais ils gardent quand même une certaine sainteté, par exemple, leur viande ne peut pas être vendue dans une boucherie. C'est pourquoi Rabbi Shimon apprend du terme Behemta qu'ils ne seront pas exterminés avec les animaux de la ville. Au Pliga de Shmuel, et cette interprétation de Ravina est en désaccord avec celle de Shmuel. D'Amar Shmuel, car Shmuel dit, pour interpréter cette braïta, Hakol Karev Vehakol Nivde. Tout peut être offert comme sacrifice et tout peut être racheté. La Gemara demande, Maïka Amar, qu'a-t-il voulu dire? La Gemara répond, Harika Amar, c'est cela qu'il a voulu dire. Kol Shekarev Ksheutam, tout sacrifice qui est offert lorsqu'il est parfait, Venivde Ksheubalmum, et peut être racheté lorsqu'il est atteint d'une infirmité. Mishalal Imit a été exclu à partir du terme de butin. C'est-à-dire, ce type de sacrifice qui peut être racheté lorsqu'il est atteint d'une infirmité n'est pas considéré comme étant butin de la ville, et c'est pourquoi il ne sera pas exterminé avec les animaux de la ville. Et tout sacrifice qui est offert lorsqu'il est parfait, mais ne peut pas être racheté lorsqu'il est atteint d'une infirmité, que gon bechor maaser, par exemple, le premier animal est l'animal désigné comme digne des animaux, qui sont consommés par leur propriétaire et ne sont pas rachetés, même lorsqu'ils ne sont pas atteints d'une infirmité, mi behema nafka, on les déduit du terme behema, c'est-à-dire les animaux de la ville. Selon Shmuel, puisque cet animal n'est pas racheté lorsqu'il est atteint d'une infirmité, il n'est pas considéré réellement comme étant un sacrifice, mais plutôt comme la possession de son propriétaire. Il faut donc un pasouk supplémentaire pour le déduire lorsqu'il est parfait. Mais si cet animal est atteint d'une infirmité, selon Shmuel, il est considéré comme étant possession de son propriétaire et sera détruit en même temps que les animaux de la ville. Donc selon Shmuel, premièrement, Rabbi Shimon est en désaccord avec le premier auteur de la Braïta sur un point, car selon lui, tout sacrifice, même celui d'une sainteté légère comme le Korban Shlamim, n'est pas exterminé avec les animaux de la ville, contrairement à l'opinion du premier auteur de la Braïta, selon l'interprétation de Resh Lakish. Deuxièmement, selon Shmuel, un premier-né animal ou l'animal désigné comme digne des animaux qui sont atteints d'une infirmité seront exterminés avec les animaux de la ville, contrairement à l'interprétation de Ravina. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Trumot Yirakvu ». Si dans cette ville il y a des produits qui ont été désignés comme prélèvement pour le Kohen, il faudra les laisser pourrir. Bon, là-dessus, la Gemara dit « Amar Rafrizda Loshanu ». Nous me disons cela, qu'on les laisse pourrir, et la Truma Be'ad Yisrael, c'est uniquement s'il s'agit du prélèvement qui se trouve encore chez le Israël. Il ne sera pas brûlé, car il était possible qu'il la donne à un habitant d'une autre ville, mais quand même, il faudra le détruire, car il y avait une possibilité qu'il la donne à un Kohen habitant de cette ville. Aval Truma Be'ad Kohen, mais s'il s'agit d'un prélèvement qui a déjà atteint la main du Kohen, donc qui a été donné au Kohen, qui van de Mamonehu, puisque cette Truma est considérée comme étant son argent, sa possession, Tissaref, il faudra la brûler avec les biens de la ville. Metiv Rav Yosef, Rav Yosef a opposé à cette interprétation de Rav Chisda, notre Mishnah qui dit Maaser Sheni Vikidva Kodesh Iganzu. Si dans cette ville il y avait des fruits qui ont été désignés comme second dîme, destinés à être consommés dans la ville de Yerushalayim, ou bien des écrits sacrés, ils devront être enfouis, mais il ne faudra pas les brûler à cause de leur sainteté. Alors la question se pose, Veha Maaser Sheni Be'ad Israël. Pourtant, la seconde dîme qui se trouve dans la main du Israël, Ketruma Biad Kohen Dami, ressemble au cas du prélèvement qui a atteint la main du Kohen, qui a été donné au Kohen. En effet, de même que cette seconde dîme sera consommée par le Israël lui-même, le propriétaire, le prélèvement de la Truma sera consommé par le Kohen qui l'a reçu. Vekatane, quand même, il est écrit dans notre Mishnah, Iganzu, ils seront enfouis, mais à cause de leur sainteté, ils ne seront pas brûlés. Donc pourquoi est-ce que la Touma qui a été donnée au Kohen ne sera pas traitée de la même manière? L'Agma répond, et là plutôt, Itmar, s'il a été dit quelque chose, Hachi Itmar, c'est ainsi que cet enseignement a été dit. Amar Rav Chisda, Loshanu, nous me disons cela, que la Touma, il faudra la laisser pourrir, et la Touma Be'ad Kohen, c'est uniquement s'il s'agit d'un prélèvement de Touma qui a été donné au Kohen, puisque ce prélèvement peut être considéré comme étant la possession du Kohen, il faudra la détruire. Seulement, par égard pour la Trouma, elle ne sera pas brûlée avec les biens de la ville, mais plutôt on la laissera pourrir. Aval Trouma Béad Israël. Mais s'il s'agit d'un prélèvement de Trouma qui se trouve encore chez l'Israël, donc qui n'a pas été encore donné au Kohen, qui n'atteint le Kohen chez Be'er Acheret, elle pourra être donnée à un Kohen habitant une autre ville. Il ne faudra même pas la laisser pourrir. Car à ce stade, lorsque cette Trouma, donc ce prélèvement, se trouve encore chez l'Israël, elle ne peut pas être considérée comme étant la possession d'un habitant de la ville, mais plutôt, ce prélèvement appartient à Hachem, il n'y a donc aucune raison de la détruire. Nous avons fini ici le shiur de Maserhet Sanhedrin Daf Kuf Yud Bet. Nous commençons le shiur de Maserhet Sanhedrin Daf Kuf Yud Gimel. Nous commençons Daf Kuf Yud Bet Amud Bet à la cinquième ligne avant les grandes lignes. La Gemara dit, Nanatam, il est enseigné là-bas dans une Mishnah. En fait, il ne s'agit pas d'une Mishnah, mais plutôt d'une Braïta, comme c'est écrit dans la note marginale. En la Braïta dit, Issa shel maaser sheni, une pâte qui a été pétrie avec de la farine, qui a été désignée comme seconde dîme, donc celle-ci doit être consommée dans la ville de Yerushalayim, Ptura mina chala, celle-ci est exemptée de l'obligation de prélever la chala, qui est un prélèvement sur la pâte. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, Vachachamim Mechadim, tandis que Chachamim rendent ce prélèvement obligatoire. En là-dessus, Amar Rav Chisda, Machloket Bemaaser Sheni Birushalayim. La discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est lorsqu'il s'agit de la farine de la seconde dîme qui se trouve dans la ville de Yerushalayim. Des Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense Maaser Sheni Mamon Gavahu, que la seconde dîme, même lorsqu'elle est prête à la consommation parce qu'elle se trouve dans la ville de Yerushalayim, est quand même considérée comme étant de l'argent, donc la possession d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, cette seconde dîme n'appartient pas à son propriétaire, mais plutôt à Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui accorde la permission d'en manger. Par conséquent, l'obligation de prélever la challah n'existant que pour la pâte appartenant à un particulier, cette obligation n'existe pas pour cette pâte qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Le Rabbanan Sabre, tandis que le Chachamim pense, Mamon Hediotu, la seconde dîme qui est prête à la consommation parce qu'elle se trouve dans la ville de Yerushalayim, est considérée comme l'argent du particulier, donc comme la possession de son propriétaire. Par conséquent, l'obligation de prélever la chala existe pour cette pâte. Aval Bigvulin, mais si cette seconde dîme se trouve en province, donc elle n'a pas été encore montée à la ville de Yerushalayim, divrei Hakol Patur, selon tout le monde, cette pâte sera exemptée du prélèvement de la chala, car la seconde dîme qui n'est pas prête à la consommation car elle ne se trouve pas dans la ville de Yerushalayim est considérée comme étant la possession d'Akadosh Baruch Hu. L'obligation de prélever la chala n'existe donc pas pour cette pâte, même si par la suite il la rachète, puisqu'au moment où cette pâte a été pétrie, l'obligation de prélever la chala n'existait pas, elle ne prend pas effet par la suite. Métiv Rav Yosef, Rav Yosef a opposé à l'interprétation de Rav Chisda notre Mishnah. En effet, il est enseigné dans notre Mishnah, Maaser Sheni Vikidvei HaKodesh Iganzu, des produits de la seconde dîme ou bien des écrits sacrés seront enfouis. La Mishnah nous enseigne que la seconde dîme dont elle parle sera interdite à la consommation. Elle devrait donc être détruite avec les biens de la ville. Cependant, par égard à la sainteté de la seconde dîme, ils seront enfouis ou enterrés. Alors, la question se pose, de quoi s'agit-il? Ilema Birushalayim, s'il s'agit de la seconde dîme appartenant à un habitant de la ville d'Yerushalayim et qui se trouve donc dans la ville d'Yerushalayim, Mihavia Iranidachat, est-ce que pour la ville d'Yerushalayim peut être appliquée la loi concernant la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie? Ve'atania, pourtant, il est enseigné dans une braïta, Asarat Varim Nehemru Birushalayim. Il y a 10 choses qui ont été dites à propos de la ville d'Yerushalayim, Vezuachat Mehem, et voici l'une d'elles, Ena Naasit Iranidachat, la loi concernant la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie ne s'applique pas sur elle. Donc la Mishnah ne peut pas parler de ce cas. Ve'ela Be'iracheret, plutôt nous devons dire qu'il s'agit d'une seconde dîme provenant d'une autre ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, et elle a été donc vouée à la destruction, Ve'askuhu Legava, et ils ont fait monter cette seconde dîme à la ville de Yerushalayim. Et c'est pour cela qu'elle serait considérée comme la possession d'un particulier, et c'est pour cela qu'elle sera interdite à la consommation, mais cependant, il faudra l'enterrer. La question se pose, Hakaltuhu Mechitzot. Pourtant, les murailles de la ville de Yerushalayim l'ont saisi. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait rentrer la seconde dîme dans la ville de Yerushalayim, il est interdit de la faire sortir de la ville de Yerushalayim. Puisque c'est ainsi, le jugement de la ville dont les habitants se sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie ne peut pas être appliqué pour cette seconde dîme, car même s'il s'agit d'un bien appartenant à un mécréant qui a commis l'idolâtrie, puisqu'on ne peut plus ramener ses possessions à leur ville d'origine, même si, comme le précise le Tosafot HaRosh, cette ville se trouve à moins d'un jour de distance de Yerushalayim, nous avons vu dans le daf précédent que ces biens ne sont pas détruits et brûlés avec les biens de cette ville. Finalement, il n'y a aucune raison d'interdire de consommer ces produits de seconde dîme. Et la lave, n'est-ce pas donc Bigvulim ? Il s'agit de seconde dîme qui se trouve encore en province, donc dans leur ville d'origine, Vekatane, Iganzu, et dans notre Mishnah, il est enseigné que cette seconde dîme doit être enfouie ou enterrée. Nous voyons donc que même lorsque cette seconde dîme se trouve dans sa ville d'origine, il y a au moins un avis qui pense que cette seconde dîme est considérée comme la possession d'un particulier, contrairement à ce que Rav Chisda a dit. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre notre Mishnah. Le olam de iracheret v'askuhu le gava. Toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'une seconde dîme provenant d'une autre ville et on l'a fait rentrer dans la ville de Yerushalayim. Et dès lors, comme nous l'avons vu selon les Chachamim, cette seconde dîme a le statut de possession d'un particulier. Et ici, de quoi s'agit-il? Shenitma, où cette seconde dîme est devenue impure, donc impropre à la consommation. Alors, puisque cette seconde dîme n'est plus destinée à la consommation dans la ville de Yerushalayim, on appliquera la loi concernant la ville dont les habitants sont laissés entraîner à commettre l'idolâtrie, mais par égard pour la sainteté de la seconde dîme, on se contentera de l'enterrer. Alagmar demande, Velifreke, on n'a qu'à racheter cette seconde dîme qui est devenue impure. Finalement, elle est de nouveau apte à être consommée. L'argent pourra être utilisé dans la ville de Yerushalayim pour de la nourriture. Cependant, comme le précise le Tosfot HaRosh, tant que cette seconde dîme n'a pas été rachetée, il est interdit de la faire sortir de la ville de Yerushalayim. Par conséquent, quand la ville d'origine est détruite, cette seconde dîme ne peut pas être ramenée à sa ville d'origine, donc elle ne sera pas détruite, et après la destruction de la ville, on la rachètera et on pourra la consommer n'importe où. D'Amar Rabbi Lazar, Minay le Maaser Sheni Shenitma, d'où savons-nous que lorsque la seconde dîme est devenue impure, chez Podimoto Afilo Birushalayim, qu'on peut le racheter même si cette seconde dîme se trouve dans la ville de Yerushalayim? Il répond, Talmud Lomar, c'est parce que le Pasuk dit dans Dvarim Yuddalet, concernant la seconde dîme, le Pasuk dit, si tu te trouves très loin de Yerushalayim, l'Otuchal Seeto, et tu ne pourras pas le porter à la ville d'Yerushalayim, tu auras le droit de le racheter, et la contre-valeur de cette seconde dîme sera utilisée pour de la nourriture dans la ville d'Yerushalayim. Dans notre contexte, Rabbi Lazar dit, Ve'en Se'et Ela Achila, le terme de Se'et ne veut dire que manger. Autrement dit, le pasuk voudrait dire, car tu ne pourras pas le manger pour n'importe quelle raison, par exemple, s'il est devenu impur. Shenemar, car le pasuk dit dans Bereshit Mem Gimel, c'est lorsque Yosef a fait un festin avec ses frères en Égypte, le pasuk dit, Vaïssa Masot Meit Panav, etc. Et il a envoyé des cadeaux de sa face vers ses frères. En fait, comme nous le voyons dans ce pasuk, il s'agit de parts de nourriture qu'il leur a envoyées pour qu'ils mangent avec lui. En tout cas, donc, le pasuk permet de racheter la seconde dîme, donc de transférer sa sainteté sur de l'argent, s'il est impossible de la manger, par exemple, parce qu'elle est devenue impure. Puisque c'est ainsi, même dans la ville de Yerushalayim, il sera permis de la racheter. Alors, puisque c'est ainsi, pourquoi a-t-on besoin d'enterrer cette seconde dîme? L'Agma répond, Hacha b'maeskinan, ici, de quoi s'agit-il? Belakouar, il s'agit en fait de seconde dîme, non pas de seconde dîme d'origine, mais de la nourriture qu'on a achetée avec de l'argent de la seconde dîme. La sainteté de cette nourriture n'est pas suffisante pour pouvoir être transférée sur de l'argent. Alors, puisqu'il n'y a plus d'autre solution pour ces fruits, puisqu'ils sont interdits à la consommation, ils devront être détruits avec les biens de la ville. Cependant, par égard pour la seconde dîme, comme nous l'avons dit, on se contentera de les enterrer.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.